Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers auditeurs, auditrices, amoureux du magazine Bana Okapi, bonjour. Les conflits entre les enfants sont au cœur de votre quotidien et c'est normal. Il est cependant très important de comprendre que vos interventions en tant que parents auront comme effet d'augmenter ou de diminuer la fréquence des conflits. Il y a plusieurs explications possibles pour une augmentation du nombre de conflits. Esprit de compétition, incompréhension des émotions, sentiment d'injustice, recherche d'attention, trouver sa place. Comment intervenir adéquatement? Nous allons les savoir dans ce magazine Bana Okapi de ce jour. Un magazine présenté par Sarah Sombela. Dieudonné Nyangasa assure la mise en onde. Hippolyte Kapanga est à la prise de son. Gisèle Cage et Stanislas Diumi réalisent ce programme de Radio Okapi sous la supervision de Jean-Marc Omatouaki Mofelele, Dijano. Les tout-petits sont naturellement égocentriques et possessifs. Ils ont tendance à s'approprier les choses sans tenir compte de l'autre, ce qui peut provoquer des conflits. Ils peuvent se taper, s'écrier ou même se mordre juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Comment apprendre tout petit à régler les conflits? Voici donc quelques conseils sélectionnés pour vous sur le site Naître et Grandir à ce propos. Et ces conseils sont lus par Jeff Opila.
Bonjour Madame Nadege Kandindi.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Est-ce qu'il y a des moments spécifiques où les tensions sont plus fréquentes?
Oui, effectivement. Mes deux enfants à la maison, pendant le moment de cours avant qu'ils puissent partir à l'école, comme la fille est l'aînée, je lui donne souvent 2000 francs pour manger pendant la récré. Et puis les garçons, je lui donne 1000 francs ou 1500. Et à ce moment-là, il y a toujours des conflits entre les deux. Les garçons aussi veulent que je puisse lui donner comme j'avais donné à la grande sœur. Mais la grande sœur également ne veut pas que je puisse donner au petit comme je lui ai donné. Lui, il se comporte comme grande et les garçons doivent rester comme ça. Et lorsque vous faites cela, ça va un peu créer des conflits entre les deux. Pendant le moment de fête, lorsque peut-être que j'achète un habit pour ma fille et que cela ne lui plaît pas, et que j'achète pour les garçons, peu importe, peut-être, ils perdent admirer comme je le fais. Alors, la fille dira que non, je suis contre elle, et puis je suis seulement pour les garçons, pas pour elle. Mais et pourtant, j'ai acheté tous les deux pareils, en tant que mes enfants, peut-être ils pouvaient être satisfaits, mais en voyant cela, ils ne sont pas vraiment satisfaits. C'est pour cela, ça crée un peu de conflit à la maison entre les deux.
Comment faites-vous, madame, pour calmer les tensions?
Bon, pour calmer cela, concernant les habits, les vêtements, je les prends tous les deux, on part dans un super, on achète tout ensemble. Avant de choisir, je lui dis toi-même, choisis ce que tu veux que je puisse acheter. Il choisit et puis j'achète pour elle, pour ne pas créer des conflits. Et les garçons aussi choisissent pour lui, je puisse acheter, lorsque j'achète, cela ne créera pas de problème vraiment. Il y a un moment que je les rassemble, même pendant que nous sommes à table, je leur dis, vous êtes des frères, il ne faut pas avoir de conflit entre vous deux. Parce que là où se trouve le conflit, il y a toujours... Donc, si vous avez des conflits, quoi, il y a la sorcellerie aussi qui entre à l'intérieur là. Alors, tant que vous êtes des frères, vous devez être vraiment content de ce que l'autre a. Il faut quand même encourager l'autre. Si même toi tu n'en as pas et que l'autre a, il faut l'encourager parce qu'avec le temps aussi, toi aussi tu auras ce que l'autre a. C'est un peu ça.
Y a-t-il des changements de comportement chez vos enfants après une dispute?
Oui, effectivement, il y a des changements parce que l'autre aussi veut que l'ami puisse demander pardon avant et puis l'autre également. Et tout cela, ça crée aussi des problèmes et puis entre les deux, il n'y aura pas vraiment de dialogue. Ils vont commencer à se disputer en tout moment. Lui, il m'a fait comme ça, lui, il m'a fait comme ça. Et il a pris mon stylo, je ne veux pas. Il a pris mon cahier, je ne veux pas. Et à, par rapport au changement là, moi étant que parent, je le prends ensemble et puis je le conseille toujours. Parce que mon devoir est de le conseiller. Je le conseille, je le dis, de ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais, ils doivent changer. Mais pour les changements de comportement après la dispute, je l'affirme effectivement qu'il y en a.
Arrive-t-il qu'il reste fâché après une dispute? Si oui, pour combien de temps généralement?
Bon, généralement, ça peut prendre, parce que ce sont des petits, ça peut prendre plus ou moins 2 heures du temps et après cela, ils oublient directement tout ce qui était passé. Ça peut prendre 2 ou 3 heures du temps parce que je l'interdis de ne pas dormir en colère.
J'ai d'intervenir pour qu'ils se réconcilient ou ils arrivent à le faire eux-mêmes?
Si j'étais présente pendant ces disputes, je ferais en sorte qu'ils puissent se réconcilier. Mais malheureusement, si par exemple je n'étais pas là, eux-mêmes, ils se réconcilient d'eux-mêmes aussi.
Est-ce qu'il arrive de moments où un de vos enfants vous accuse de toujours prendre la part de l'autre?
Oui, effectivement. Parce que si vous faites quelque chose pour les deux et que l'autre prouve que ce que vous avez fait pour lui n'est pas vraiment bon, il dira que non, maman, tu es contre moi. Mais étant que maman, je ne peux pas être contre mes deux enfants quand même. Je le prends, je lui dis non, non. Voilà, je fais ça pour cette raison, pour cette raison. Et de ton tour aussi, lorsque tu arriveras à ce niveau, je le ferai aussi pareil.
Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents qui ont du mal à résoudre un conflit entre enfants?
Bon, comme conseil, je vous dirais, lorsqu'il y a un conflit entre les deux enfants, il faut toujours le mettre ensemble et puis dialoguer parce que il faut prendre les enfants et les conseiller toujours. En conseillant, peu importe qu'aujourd'hui ils n'écoutent pas, avec le temps, ils diront « Maman nous dit ceci, papa nous dit de faire ceci, maman nous dit de faire ceci. » Avec le temps, ils changeront.
Merci Jeff. Dans la plupart des cas, le comportement de certains enfants en famille dérange les autres membres de famille. Le plus jeune veut imposer leurs préférences aux aînés et aux parents. Parfois, les aînés ont toujours tendance à penser qu'ils ont toujours raison, même s'ils ont tort. Et les parents, à leur tour, privilégient souvent les plus petits. Cela crée les tensions entre les enfants dans la maison. Grâce au réseau, l'on a tendu le micro aux jeunes adolescents sur ces sujets. Suivez leurs impressions.
Moi, ce qui me dérange, c'est seulement quand on choisit les dessins animés à suivre ensemble. Ça veut dire que le comportement de mon petit frère, il va être privilégié car il est le cadet. La troisième, elle fait ses fières parce qu'elle est la cadette des filles. La deuxième, c'est elle qui prend toujours la télécommande parce qu'elle est un peu la plus forte de la maison.
Ce qui me dérange souvent, c'est leur manière d'agir dans certains cas. Par exemple, les aînés ont toujours tendance à penser qu'ils ont raison. Même lorsqu'ils ont tort, ils ont toujours tendance à penser de cette manière-là.
Moi, particulièrement, ce qui me dérange, c'est que les petits aiment trop prendre la télé pour eux. Ils pensent que les nécessaires, ce sont les dessins animés. Nous autres aussi, les grandes personnes, nous avons du temps à passer devant la télévision, à suivre les informations. Actuellement, l'état du pays, en tout cas.
Moi, ce qui me dérange vraiment chez mes petites sœurs, c'est que mes petites sœurs, elles se concentrent trop à la télé. Et à chaque fois qu'elles ont un devoir, lorsque j'y travaille avec elles, ce qui vraiment m'intrigue beaucoup, c'est la manière dont elles n'arrivent pas à lire ce qu'elles écrivent dans leur cahier. C'est au moins ce qui me dérange chez elles. Je voudrais qu'elles puissent bosser, dire, mais elles s'en foutent.
Moi, ce qui me dérange, c'est la manière dont les parents leur donnent les privilèges aux petits enfants parce qu'ils sont petits. Mais c'est un faux pas. C'est pas bien. Ce qu'on leur montre, ça restera peut-être gravé dans leur mémoire. Quand ils seront grands, c'est pas bien de leur donner toujours des privilèges, comme pour ce qui concerne la télé, comme pour ce qui concerne beaucoup de choses, des choses même à manger, même au-delà. Donc, c'est pas bien.
Y a-t-il quelque chose que tu aimerais changer dans la façon dont vous interagissez avec vos frères et sœurs à la maison?
Moi, je voudrais qu'elles puissent s'adapter aux études d'abord. Premièrement, parce que moi vraiment la chose qui m'intrigue c'est qu'elles sont pas fortes aux études. Je sais pas comment faire. À chaque fois que vous les apprenez quelque chose, elles oublient. Elles n'ont pas un bon cerveau. Bon, moi je voudrais qu'elles puissent bosser dur, arriver à mémoriser des trucs comme le dessin animé. Parce que mais tu sais quand tu regardes les dessins animés, lorsque les dessins animés terminent, vous pouvez leur poser toutes les questions qu'ils ont regardées les dessins animés et ils vont vous répondre. Mais lorsqu'elles lisent, vous leur posez des questions, elles ont des difficultés. Et moi je voudrais qu'elles puissent d'abord se concentrer aux études que les dessins animés. Bah, fait, les dessins animés c'est pour les petits enfants, c'est bien, mais les études aussi c'est important.
Moi, je veux juste que qui grandissent un peu, qui ne pensent pas toujours que parce qu'ils sont petits, et ils auront toujours les privilèges, qui un jour ils finiront par être grands, et pourquoi pas avoir des petits ou petites sœurs, et puis ils ne seront plus les vedettes, dans ce que je voulais dire un peu. Donc ils doivent grandir, vu qu'ils ne resteront pas toujours sur ces stades, donc ils doivent grandir, faire des pas.
Alors, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé dernièrement chez vous, qui a occasionné les disputes entre vous, les enfants à la maison?
Pour nous, ce qui a occasionné la dispute, c'était seulement pour choisir, seulement ce qu'on va regarder à la télé. Mon petit frère voulait regarder Ninjago. La deuxième voulait regarder des séries et mon petit frère veut regarder Ninjago. Moi, je regarde moi tout, hein, parce que moi, c'est pas un problème. Ma petite soeur veut regarder des séries et l'autre veut regarder 4 mariages pour une lune de miel. Alors, on a commencé à se disputer, tout maman pour la télécommande, on va plus toucher à la télévision jusqu'à ce que les examens vont finir à cause de ça.
Ce qui a occasionné la dispute dernièrement, c'est pas avec mes petits ou petites sœurs que je me suis disputé, mais c'est plus avec mes parents. Je leur ai montré simplement ce qui n'était pas bon dans ce qu'ils faisaient, parce que lui, c'est un petit garçon et les autres sont aussi des petites sœurs. Ils ne prennent pas vraiment de bonnes décisions. Donc, ce sont à mes parents de leur montrer le droit chemin, de leur montrer ce qui est bon pour eux. Donc, c'était un peu une dispute, un petit accrochage sur ça.
Est-ce qui pourrait occasionner des disputes à la maison? Par exemple, le fait que quelqu'un ait mis quelque chose à sa place et qu'une autre personne l'ait déplacé. Donc peut-être sans le savoir, quelqu'un d'autre pourrait mettre son argent et moi, vu que j'ai besoin de cet argent pour m'en servir, pour telle ou telle autre chose, je pourrais m'en servir. Mais peut-être que la personne ayant utilisé l'argent ne savait pas que cet argent appartenait à une autre personne. Donc lorsque le propriétaire de l'argent rentre et reconnaît l'absence de son bien, c'est ce qui pourrait occasionner des disputes à la maison, par exemple.
Chez nous, quand un grand veut regarder la télé, le petit, il cède la télé au grand. Parce que chez nous, je ne peux pas venir là devant la télé. J'ai dit non, j'ai besoin de regarder un match et que mes petites sœurs commencent à parler. Non, non. Moi, quand je m'énerve, d'elle-même déjà, elle sèche. Non, non, les grands frères, c'est énervé, il veut regarder la télé. Voilà, il me laisse le temps de regarder. Et même moi, si ma grande sœur veut regarder la télé, je lui laisse tranquillement la télé parce qu'on ne veut pas susciter la dispute parce que nous voulons toujours vivre en harmonie. Et chez nous, on n'occasionne pas des disputes inutilement.
Comment te sens-tu lorsque vous disputez à la maison avec vos frères et sœurs?
Déjà, étant donné que dans notre famille, presque tout le monde s'en fout, après la dispute, on commence à rire. Parce qu'on commence à dire, toi, tu avais fait ça pendant la dispute, regarde comme si tu étais fâché, regarde comme tu avais fait. Parce que la plupart du temps, on filme de nos disputes, après on commence à rire. Ça veut dire que c'est un moment seulement, ça crée des souvenirs et tout. Et ça énerve maman, parce qu'on crie trop. Je m'énerve, après je commence à rire, c'est trop bien.
Pour moi, j'essaie d'abord d'imposer mon autorité, vu que ce sont les petits, et que ce que j'ai fait, je sais que c'est bien pour eux. Déjà, l'esprit des chamailleries à la maison, il n'y a pas trop, vu que chacun s'occupe de ses affaires. Il n'y aura pas une personne qui va, venir s'incruster dans les affaires des autres. Donc, on est en harmonie comme ça.
Concernant ces produits, j'aime ça un peu affligé. Donc, c'est pas bien de voir des gens liés de sang. Les gens vivant sous un même toit, se disputer, c'est pas vraiment bien. Donc, parfois ça arrive, la colère vient, et puis à un moment donné, on essaye d'arranger, de revenir sur le droit chemin.
Y a-t-il des moments où tu te sens particulièrement frustré ou en colère? Si oui, quand et pourquoi?
Si, il y a des moments où je suis en colère, parce qu'il y a des moments où tu trouves que la chose que tu penses regarder à la télévision est trop importante pour toi, mais les situations à laquelle tu te trouves ne te permettent pas de regarder la chose. Là, tu es parfois énervé. Après un moment, tu te remaîtrises et tu te contrôles, puis ça passe.
Bien entendu, nul n'est censé vouloir des querelles ou encore la discorde dans une famille contenant des personnes liées de sang. Mais si cela arrive, bien entendu, nous devons juste nous calmer. Car les dialogues, c'est important dans une famille. C'est ce qui permettra à ce que on puisse régler la situation et que tout se passe dans l'ordre.
Surtout quand une personne touche, je ne sais pas, à ma personnalité, pour ne pas dire mon ego, quand une personne ne vous respecte pas, ne vous donne pas vraiment la valeur qui vous est due, c'est bien de respecter les gens parce que le respect, c'est réciproque. Ce n'est pas parce que tu es plus âgé que je dois ou je suis forcé de te respecter. C'est pas parce que moi, je suis moins âgé que tu ne peux pas me respecter. Donc, à chaque fois qu'on me manque de respect ou qu'on ne me considère pas, cela m'afflige un peu. Ça me déstabilise et ce n'est pas bien.
Qu'est-ce que tu aimerais que ton frère ou ta sœur comprennent à propos de ton comportement ou à propos de ta façon d'être?
Moi, sérieusement, pour me comprendre, d'abord, c'est difficile. D'abord, moi-même, je n'arrive pas des fois à me comprendre. La seule chose que mes frères et sœurs aiment chez moi, c'est la folie et mon humour, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a rien à comprendre chez moi.
Bah...
Okapi, Okapi.
Comment régler les tensions entre les enfants à la maison? C'est les sujets au cœur de notre magazine et nous poursuivons. Ce n'est généralement pas facile pour les parents d'intervenir dans les conflits ou querelles de leurs enfants, surtout si ceux-ci sont déjà des adolescents. Jeff Oupela est allé à la rencontre de quelques parents de Kinshasa. Dans ce condensé que vous allez bientôt suivre, les parents nous disent comment ils font pour gérer les disputes entre les enfants. Commençons d'abord avec Monsieur Odonkiala, ses pères de famille.
Monsieur Odonkiala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de comment régler les tensions entre les enfants. Est-ce qu'il y a des moments spécifiques où les tensions sont plus fréquentes?
Oui, nous les vivons généralement entre les enfants. Nous les vivons. Des moments comme ça arrivent fréquemment. Je disais autrefois que lorsque les enfants sont encore petits, il n'y a pas ce problème. Mais plus ils grandissent, plus le problème aussi grandit et le problème commence à arriver. Alors, en tant que parent, il faut être souple pour connaître tout ce moment-là. Quand les enfants sont vraiment petits, il n'y a pas trop de problèmes. Mais plus ils grandissent, c'est là où les difficultés arrivent parce que tel a de besoins, tel autre a de besoins. Et quand vous arrivez à satisfaire le besoin du premier et que le second n'est pas encore satisfait, ça crée de tensions. Quand vous arrivez à répondre positivement à la fille et que le garçon n'est pas encore satisfait, ça crée aussi des tensions, donc ce sont des moments comme ça pendant lesquels nous observons toutes ces tensions.
Alors quelles sont les raisons qui créent le plus souvent des disputes chez vos enfants?
Oui, des raisons sont multiples. Pour certains enfants, les raisons de tensions sont d'ordre alimentaire. C'est-à-dire, il y en a qui mangent beaucoup, et d'autres ne s'occupent pas tellement du manger, et vous allez trouver que certains sont parfois égoïstes. Quand ils ont quelque chose, ils n'aiment pas partager avec les autres. Alors ça crée aussi trop de tensions. Mais eux, ils aiment à leur tour, quand leurs frères ont quelque chose, qu'on le leur donne. Mais eux, à leur tour, ils se font égoïstes. Hein? Certaines tensions sont sur l'alimentation. Donc, quand certains ont mangé, d'autres n'ont pas mangé. Certains ont eu une grosse part, d'autres ont eu une petite part, ça aussi ça crée de tensions. Et d'autres raisons peuvent être sur la manière dont ces enfants sont traités par le parent. Un parent qui donne beaucoup plus de valeur et d'importance à l'un et qui essaye de négliger l'autre, lui-même le parent provoque déjà ces tensions. Certainement, cette manière de traiter les enfants va susciter, va créer, va provoquer des tensions entre ces deux enfants. Et ça va même susciter la haine. C'est-à-dire, celui qui se sent marginalisé aura de la haine contre celui qui est beaucoup plus apprécié, celui sur qui on fait des éloges. Et d'autres tensions peuvent être suscitées suite... Là, je reviens sur les traitements. Sur les traitements, et si je parlerai plus de habits que nous achetons parfois, de cadeaux en général, que nous offrons parfois à nos enfants, vous offrez un cadeau, et que vous avez déjà offert un cadeau au premier, le deuxième fait un peu la comparaison entre le premier cadeau que vous avez offert au premier et celui que vous lui offrez, et il se dit, mais lui là, vous lui avez acheté ceci, ça coûte beaucoup d'argent, c'est quelque chose de bonne qualité, mais moi ce que vous m'achetez là, c'est juste quelque chose de minimisable, et puis vous allez trouver que ça va créer aussi des tensions. Donc, il faudra vraiment être souple sur ces plans-là, dans la manière de gérer les enfants, dans la manière de les traiter. Il ne faut pas qu'il y ait ce que nous appelons les inégalités ou les indifférences. Voilà.
Alors, comment faites-vous pour calmer ces tensions chez vous à la maison entre enfants?
Nous les accompagnons toujours par des conseils. Nous les accompagnons par des conseils, nous dialoguons avec eux, nous leur faisons comprendre ce qu'il faut leur faire, ce qu'il faut leur faire comprendre. Donc c'est de cette manière que nous arrivons un peu à calmer toutes ces tensions. Et il faut de temps en temps être avec ces enfants pour dialoguer, parler avec eux. Et il faut aussi connaître le tempérament de chaque enfant. Parce que lorsque vous avez des enfants en famille, chacun ne se comporte pas comme tout le monde. Chaque enfant a son comportement, chaque enfant a sa manière d'agir. Alors il faut connaître le type d'enfant que vous avez. Ça aussi c'est quelque chose qui aide souvent le parent à bien orienter les enfants et surtout à bien les départager lorsqu'il y a des conflits.
Y a-t-il des changements de comportement chez vos enfants après une dispute?
Changement de comportement, oui, et généralement c'est dans le bon. C'est-à-dire, après avoir eu des disputes, vous les entretenez, vous les conseillez, vous essayez un peu de discuter avec eux, vous faites comprendre à chacun ce qu'il devait normalement faire pour que ces tensions ou ces disputes n'arrivent pas. Et après cela, ce à quoi moi je m'attends généralement, c'est la réconciliation. Et quand il y a réconciliation comme ça, on vit l'harmonie, c'est-à-dire vous allez constater que les enfants vivent cette fois-ci dans l'harmonie. Et généralement, ce changement auquel moi je m'attends personnellement est positif. Je connais mes enfants, et de temps en temps, quand il y a dispute, il y a un petit conflit, j'essaie de les régler moi en tant que parent, et après cela, je les réconcilie et ils reviennent à l'harmonie.
Arrive-t-il qu'ils restent fâchés après une dispute? Si oui, pour combien de temps généralement?
Oui, ça c'est naturel. Ça c'est naturel. Je disais tantôt que tous les enfants ne sont pas le même. Il y en a qui vous pouvez faire des remarques, vous pouvez prodiguer des conseils, mais il continue à garder sa colère. Ça peut être pendant toute la journée, ça peut être pendant 2 jours. Mais ce que je fais moi, c'est d'être toujours à côté de ses enfants pour lui faire comprendre que garder rancune pendant beaucoup de temps, et surtout après avoir été en conflit avec son frère, n'est pas bon. Il faut immédiatement, aussitôt, régler la situation, savoir pardonner. Et là, j'inculque le sens du pardon aux enfants.
Êtes-vous obligé d'intervenir pour qu'ils se réconcilient ou ils arrivent à le faire eux-mêmes?
Pour certains cas, je suis moi en tant que parent obligé d'intervenir pour mettre du calme. Mais pour de petits problèmes, parfois, il y a de petites disputes, de petits conflits, et aussitôt, eux-mêmes se réconcilient et puis la paix revient.
Est-ce qu'il arrive de moments où un de vos enfants vous accuse de toujours prendre la part de l'autre?
Personnellement, je ne le fais pas et je ne l'ai jamais entendu de mes enfants parce qu'ils savent comment est-ce que je me comporte vis-à-vis d'eux. Je donne raison à celui qui a raison, je donne tort à celui qui a tort, mais dans l'amour.
Les enfants reçoivent-ils une attention équilibrée de votre part?
Personnellement, oui. Pour mes enfants, oui. Je les traite de manière équitable. Et surtout en tant que chrétien, je ne pouvais pas négliger l'un pour valoriser l'autre. Non, non, je le traite chacun de sa manière et à sa juste valeur.
Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents qui ont du mal à résoudre un conflit entre enfants?
Oui, le premier conseil, c'est que nous sommes appelés, nous, en tant que parents, à être facilitateurs de nos enfants. C'est-à-dire, ils peuvent avoir la compréhension, mais c'est nous qui facilitons cette compréhension pour qu'ils assimilent bien. Alors nous devons être là pour trancher le petit conflit entre les enfants. Et lorsqu'on tranche ces petits conflits, nous devons toujours être avec ces enfants, nous devons les écouter, nous devons avoir beaucoup plus d'amour pour ces enfants, nous devons le porter dans nos cœurs pour que nous arrivions à résoudre les situations qui arrivent généralement entre les enfants pour les départager. Donc les parents sont là pour départager les enfants et non pour les encourager, pour les motiver et non pour les décourager. Et ce que moi je pouvais dire ici, c'est de traiter tout enfant de la même manière. Même si l'enfant a un handicap, on ne pouvait pas négliger cet enfant parce qu'il a un handicap. Cet enfant qui a un handicap, ici je voudrais parler de l'handicap physique, parce qu'il y a des enfants qui sont négligés à cause de ça. Un enfant qui a un handicap physique est négligé par ses propres parents, négligé par ses propres frères. Et vous verrez que même les gens du quartier, de la cité, vont négliger cet enfant à cause de son handicap physique. Non, cet enfant...
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans la seconde partie de votre magazine Bana Okapi. Sachez que ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF traite des sujets liés à la santé, l'entrepreneuriat, l'éducation, l'environnement et la protection des droits de l'enfance. Nous parlons aujourd'hui de comment régler les tensions entre les enfants à la maison. En effet, les tensions entre les enfants constituent de plus en plus et rapidement les lots de notre quotidien. Les enfants se disputent pour tout et pour rien. Il suffit d'un petit rien pour qu'une dispute éclate. Mais vous, en tant que parent, vous devez savoir comment gérer ces tensions pour que votre intervention ne l'amplifie pas. Justement, ce magazine vous fournit de moyens et atouts nécessaires à ces sujets. Nous recevons donc un psychologue et un sociologue pour en parler dans cette seconde partie du magazine Bana Okapi. À la présentation, Sarah Sombela, Dédoné Nyangasa assure la mise en onde, Hippolyte Kapanga est à la prise de son, Gisèle Cage et Stanislas Diomé réalisent ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano. Chers auditeurs, dans la première partie, vous avez eu à suivre un père nous parler de comment il gère les conflits entre ses enfants chez lui à la maison. Écoutons cette fois-ci cette mère de famille nous parler de son expérience. Et elle est toujours au micro de Jeff Opela.
Bonjour Madame Nadège Kandindi.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Est-ce qu'il y a des moments spécifiques où les tensions sont plus fréquentes?
Oui, effectivement. Mes deux enfants à la maison... Pendant le moment des cours, avant qu'il puisse partir à l'école, comme la fille est l'aînée, je lui donne souvent 2000 francs pour manger pendant la récré. Et puis, les garçons, je lui donne 1000 francs ou 1500. Et à ce moment-là, il y a toujours des conflits entre les deux. Les garçons aussi veulent que je puisse lui donner comme j'avais donné à la grande sœur. Mais la grande sœur également ne veut pas que je puisse donner au petit comme je lui ai donné. Lui, il se comporte comme grande. Et les garçons doivent rester comme ça. Et lorsque vous faites cela, ça va un peu créer des conflits entre les deux. Pendant le moment de fête, lorsque peut-être que j'achète un habit pour ma fille et que cela ne lui plaît pas, et que j'achète pour les garçons, peu importe, peut-être ils perdent mire comme je le fais. Alors, la fille dira que non, je suis contre elle, et puis je suis seulement pour les garçons, pas pour elle. Mais et pourtant, j'ai acheté tous les deux pareils en tant que mes enfants. Peut-être ils pouvaient être satisfaits, mais en voyant cela, ils ne sont pas vraiment satisfaits. C'est pour cela que ça crée un peu de conflit à la maison entre les deux.
Comment faites-vous, madame, pour calmer les tensions?
Bon, pour calmer cela, concernant les habits, les vêtements, je les prends tous les deux, on part. Dans un super, on achète tout ensemble. Avant de choisir, je lui dis toi-même, choisis ce que tu veux que je puisse acheter. Il choisit et puis j'achète pour elle, pour ne pas créer des conflits. Et les garçons aussi choisissent pour lui. Je puisse acheter, lorsque j'achète, cela ne créera pas de problèmes vraiment. Il y a un moment que je les rassemble, même pendant que nous sommes à table, je leur dis, vous êtes des frères, il ne faut pas avoir de conflits entre vous deux. Parce que là où se trouve le conflit, il y a toujours... Donc, si vous avez des conflits, quoi, il y a la sorcellerie aussi qui entre à l'intérieur, là. Alors, tant que vous êtes de frais, vous devez être vraiment content de ce que l'autre a. Il faut quand même encourager l'autre. Si même toi, tu n'en as pas et que l'autre a, il faut l'encourager. Parce qu'avec le temps aussi, toi aussi, tu auras ce que l'autre a. C'est un peu ça.
Y a-t-il des changements de comportement chez vos enfants après une dispute?
Oui, effectivement. Il y a des changements parce que l'autre aussi veut que l'ami puisse demander pardon avant et puis l'autre également. Et tout cela, ça crée aussi des problèmes et puis entre les deux, il n'y aura pas vraiment de dialogue. Ils vont commencer à se disputer en tout moment. Lui, il m'a fait comme ça, lui, il m'a fait comme ça. Et il a pris mon stylo, je ne veux pas. Il a pris mon cahier, je ne veux pas. Et par rapport au changement là, moi étant que parent, je le prends ensemble et puis je le conseille toujours. Parce que mon devoir est de le conseiller. Je le conseille, je le dis de ceux qui sont en train de faire ce mauvais, ils doivent changer. Mais pour les changements de comportement après la dispute, je l'affirme effectivement qu'il y en a.
Arrive-t-il qu'il reste fâché après une dispute? Si oui, pour combien de temps généralement?
Bon, généralement, ça peut prendre, parce que ce sont des petits... Ça peut prendre plus ou moins 2 heures du temps et après cela, ils oublient directement tout ce qui était passé. Ça peut prendre 2 ou 3 heures du temps parce que je l'interdis de ne pas dormir en colère.
J'ai d'intervenir pour qu'ils se réconcilient ou ils arrivent à le faire eux-mêmes.
si j'étais présente pendant ces disputes, je ferais en sorte qu'ils puissent se réconcilier. Mais malheureusement, si par exemple je n'étais pas là, eux-mêmes, ils se réconcilient d'eux-mêmes aussi.
Est-ce qu'il arrive de moments où un de vos enfants vous accuse de toujours prendre la part de l'autre?
Oui, effectivement. Parce que si vous faites quelque chose pour les deux et que l'autre prouve que ce que vous avez fait pour lui n'est pas vraiment bon, il dira que non, maman, tu es contre moi. Mais étant que maman, je ne peux pas être contre mes deux enfants quand même. Je le prends, je lui dis non, non. Voilà, je fais ça pour cette raison. Et de ton tour aussi, lorsque tu arriveras à ce niveau, je le ferai aussi pareil.
Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents qui ont du mal à résoudre un conflit entre enfants?
Bon, comme conseil, je vous dirais, lorsqu'il y a un conflit entre les deux enfants, il faut toujours le mettre ensemble et puis dialoguer parce que il faut prendre les enfants et les conseiller toujours. En conseillant, peu importe qu'aujourd'hui ils n'écoutent pas, avec le temps, ils diront « Maman nous dit ceci, papa nous dit de faire ceci, maman nous dit de faire ceci. » Avec le temps, ils changeront.
Régler les tensions entre les enfants à la maison, c'est les sujets au cœur de ce magazine. Nous recevons pour vous le professeur Bouiza, Jean Damascène. Dans cet entretien avec Stanislas Diomi, il nous parle des raisons qui créent les conflits entre les enfants. On écoute.
Professeur Bouiza Kinaboula, Jean Damascène, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes sociologue, philosophe, professeur à l'Académie des Beaux-Arts, chercheur. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment régler les tensions entre les enfants à la maison. Comment les dynamiques familiales influencent-elles les relations entre frères et sœurs?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Merci de m'associer à cette réflexion sur des problèmes réels, sur des faits des sociétés que nous vivons en Afrique, au Congo, et particulièrement à Kinshasa, et ce n'est pas seulement des questions liées à notre espace, c'est lié à partout où il y a des sociétés, partout où il y a des gens qui vivent ensemble, parce que quand on parle de famille, on voit directement un ensemble de personnes qui vivent ensemble, un petit groupe qui vivent sous le même toit, des personnes apparentées, la famille est restreinte, la famille élargie, mais quand on vit sous le même toit, c'est généralement la famille restreinte où nous voyons les papas, la maman et les enfants. Les formes de nos familles évoluent aussi en fonction de l'évolution de nos sociétés. C'est pourquoi je pense vous parler des dynamiques familiales. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'influences actuellement qu'il est même difficile de définir exactement qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui. Mais si nous restons dans ce qui est simple, nous voyons les parents et les enfants, pour parler des relations qui peuvent intervenir et des relations qui peuvent être conflictuelles, on peut voir tout de suite des causes. Bon, déjà quand les enfants naissent et grandissent ensemble, tous les enfants ne sont pas les mêmes. Parfois, la tendance des parents, c'est de comparer certains enfants, tel est plus intelligent, tel ne l'est pas, tel les répond à nos attentes, tel les répond moins, tel est obéissant, l'autre est rebelle. Alors du coup, déjà, en grandissant, les parents qualifient différemment leurs enfants. Et parfois, il y a des qualifications qui deviennent des stéréotypes et qui marquent même la vie des enfants, au point que les enfants grandissent avec ce qu'on peut dire des blessures, parce que tel a été privilégié par rapport à l'autre, tout ça. Et du coup, même les regards entre enfants changent entre eux, et du coup, les relations sont impactées. Celui qui sait, les filles sont les aimées des papas, les garçons peut-être des mamans. Bon, puis parfois, les papas exagèrent et ils protègent plus les filles que... Donc il y a tout ça qui entre en jeu et qui dérange parfois les relations des enfants quand ce n'est pas bien dosé et quand ce n'est pas expliqué. Les conflits interviennent encore plus tard, surtout quand les enfants grandissent.
Oui, oui.
Il y a des problèmes de dot qui interviennent, il y a des problèmes d'héritage qui interviennent, et il y a des querelles qui interviennent. Parfois, il y a des enfants qui ont grandi chez la tante, qui ont eu une telle éducation par rapport à l'autre. L'autre qui est parti à l'internat, il a vu d'autres influences par rapport à d'autres. Quelqu'un qui a voyagé et qui est revenu, il voit le monde différemment que d'autres. Il y a même les problèmes de croyance. Il y a tel qui dans telle religion.
Oui, oui, surtout ça.
Et d'autres qui fréquentent une autre église. Donc, il y a tout ça, ce sont des éléments sociaux qui influencent les relations entre les enfants d'une même famille et qui peuvent avoir des impacts négatifs dans leur appréhension de la vie et dans les relations entre eux.
Et quel rôle jouent les différences d'âge et de sexe dans les conflits entre enfants?
Alors, dans les sexes, bon, nous, comme Africains, c'est d'abord les privilèges qui sont liés au sexe, d'abord. Alors, par exemple, du point de vue de l'héritage, culturellement, on pense que c'est d'abord les garçons qui doivent hériter les choses, ou c'est les garçons qui doivent conduire, commander la famille, surtout en absence des parents. Et cela crée parfois des problèmes, surtout quand ce sont des garçons qui sont mariés. Et il y a des problèmes entre belles-sœurs, parce qu'au moment de l'héritage, la femme de quelqu'un peut vouloir que son mari puisse s'accaparer de biens de la famille. Et celui-là peut entrer en conflit avec ses propres sœurs et même ses d'autres frères. Donc, sur le plan du genre, sur le plan du sexe, il y a ces avantages. Par exemple, la considération des hommes par rapport aux femmes. Hein, les femmes, culturellement, n'ont pas les premiers postes. Pour en avoir, il faut davantage lutter. Et au moment de l'héritage, c'est un grand problème. Et heureusement qu'actuellement, il y a des lois qui ne voient plus les sectes comme un freinage par rapport à l'héritage et que tous les enfants sont traités de la même manière. Oui, mais il y a aussi des responsabilités aussi liées au sexe. Hein. Quand on est garçon, on est plus responsabilisé pendant qu'on est en train de grandir. Quand on est une fille, on se dit non, lui, elle ira dans une autre famille, on ne peut pas beaucoup compter sur elle. Et quand il y a des moments, il y a des conflits parfois, ces facteurs liés au sexe interviennent aussi parce que parfois les filles ne grandissent pas avec un sens d'appartenance à la famille plus accentué par rapport aux garçons. Et parfois au moment des conflits, c'est plus les garçons qui prennent les devants que les filles. Oui. Alors quand il y a parmi les enfants des filles qui ont un sens élevé du leadership, et que leurs frères ne comprennent pas ou n'acceptent pas cela, c'est déjà un motif de conflit dans le traitement des problèmes ou des situations de la famille, où la fille voudrait que sa parole compte, alors que les hommes ont grandi en sachant que leurs sœurs ne comptent pas beaucoup.
Et comment les changements sociaux et économiques affectent-ils les relations familiales et les tensions entre enfants?
Du point de vue social et économique, c'est toujours au niveau des différences. S'il y a des enfants qui ont grandi et pendant qu'ils grandissaient, on ne leur a pas donné beaucoup d'attention et peut-être qu'on les a considérés moins importants que d'autres, s'ils finissent, par exemple, dans la vie à réussir sur le plan social et sur le plan économique, il y a risque aussi, entre guillemets, qu'ils puissent se venger dans le sens qu'ils puissent vouloir se confirmer sur d'autres. Alors, nous avons aussi un adage qui dit « celui qui a l'argent qui décide en famille ».
Oui.
Alors, il y a parfois, sur le plan économique, quand c'est le petit frère qui a plus de moyens, et les grands frères directement vivent une sorte de complexe parce qu'il voit qu'il n'a pas réussi. Il voit qu'il ne sait pas bien jouer son rôle parce que économiquement il est limité. Parfois dans des réunions de famille ou quand il y a des choses qui nécessitent l'argent, c'est plus la voix de celui qui a l'argent, celui qui a les moyens qui est écouté. Et c'est là ce sont des complexes qu'on entretient au niveau des relations familiales et ça crée aussi des tensions. Donc il y a la réussite matérielle comme la réussite sociale aussi qui intervient, surtout même dans la famille les enfants vivent dans une sorte de compétition, ils ne vivent pas une relation complémentaire, ils ne grandissent pas sachant que il faut vivre ensemble, il faut construire ensemble, quelqu'un peut réussir sur tel domaine et l'autre non, et l'autre peut apporter quelque chose sur un autre plan. Alors quand on n'a pas été éduqué dans ce sens, qu'on a vécu un rival sur le plan social et économique, la réussite des uns peut devenir source de tension, source de jalousie, source de méfiance par rapport à d'autres. Donc c'est, mais tout rentre dans la dimension, je dirais, éducative. Comment on était éduqué à affronter la vie ensemble? Parce que c'est ça aussi la famille. C'est vivre sous le même toit, même quand on vit à des milliers différents. Donc, on vit avec les mêmes références, mais quand ces références sont, entrent en conflit, alors ça devient un problème au niveau social et surtout l'économique affecte beaucoup, beaucoup les relations familiales.
Et dans ce cas, professeur, comment les enfants apprennent-ils à gérer les conflits au sein de la famille par rapport à d'autres contextes sociaux?
Alors, pour gérer les conflits en famille, il faut que les familles maintiennent une dimension, de dialogue entre les membres de la famille. Dans les dialogues, on doit aussi respecter les places des uns et des autres. Donc, on a un grand frère, on a un petit frère, on a une grande sœur, on a une petite sœur. On est un oncle, on est une tante, on est papa, on est maman. Donc, chacun doit être à sa place, mais il y a la dimension dialogue qui doit intervenir, mais aussi l'essence de la justice quand les parents éduquent leurs enfants. Et le vrai problème, on apprend à vivre, à résoudre les problèmes en société quand on a grandi dans une famille où on sait résoudre les problèmes par les dialogues, par dans la franchise. Parce qu'on dit que la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc, tout commence en famille. Et toutes les valeurs que nous voudrions avoir dans notre société, nous devrions les avoir dans notre propre famille d'abord.
Et professeur, existe-t-il des effets à long terme en ce qui concerne les tensions entre frères et sœurs sur le développement social et émotionnel des enfants?
Oui, effectivement, parce que quand tout conflit, surtout au niveau des familles, se base sur des blessures. C'est des blessures qui ont des origines ou des racines déjà dans l'enfance. Comme je disais, les stéréotypes que certains enfants portent dans la même famille. Donc, ces blessures ne sont pas guéries dans le développement de l'enfant, ça devient difficile plus tard de les guérir. Donc, ça devient des sources de tension. L'enfant doit trouver un certain climat d'épanouissement pour pouvoir affronter la vie plus tard. Mais si ça manque au niveau de la famille, qui est la base de la société, ça sera compliqué aussi dans la vie de les résoudre.
Professeur Jean Damascène Bouiza, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je salue tous les auditeurs de Radio Capi.
Et on clôture avec le psychologue Erickson Mupanda. Avec lui, nous parlons cette fois-ci de la bonne manière de régler les tensions entre les enfants à la maison. Erickson Mupanda s'entretient avec André Kitenge.
Erickson Mupanda, bonjour.
Ah oui, bonjour monsieur André Kitenge.
Quels sont les facteurs psychologiques qui peuvent contribuer au conflit entre frères et sœurs?
Ça, c'est une réalité très vraie, parce que il est dit toujours que les conflits sont inhérents à la vie humaine, c'est-à-dire là où deux, trois personnes vivent, il faut aussi s'attendre à des conflits, à des tensions. Et donc divers facteurs psychologiques peuvent influencer les conflits entre frères et sœurs. Parmi ces facteurs, nous citons le premier, nous voyons la rivalité. La rivalité, c'est un facteur qui peut influencer les conflits entre frères et sœurs. Ici, à ce niveau de rivalité, il faut faire mention à la compétition pour gagner l'attention des parents. En famille, les enfants, lorsqu'ils vivent une certaine compétition pour s'en tirer la sympathie, l'attention des parents, ça peut déjà être une source de rivalité. Mais aussi, lorsque l'un des enfants se sent favorisé par les parents. Lorsqu'il se sent favorisé, il a comme l'impression que il a de la très grande valeur au niveau de la famille par rapport à d'autres enfants. Et cela peut déjà créer des tensions entre les enfants. Deuxième facteur, nous citons les traits de caractère qui sont différents entre les enfants. En famille, vous avez des enfants introvertis qui se caractérisent par l'introversion. Vous avez aussi des parents qui, plutôt des enfants, qui peuvent se caractériser par l'extraversion. Et des fois, ces deux caractères peuvent conduire à des malentendus entre les enfants au milieu de la famille. Il faut aussi dire à ces propos que la communication insuffisante de la part des parents envers les enfants peut aussi créer des tensions parmi les enfants. À cela, il faut ajouter aussi certaines situations de stress, des pressions scolaires, des pressions sociales que les enfants vivent. Ça peut, d'une manière ou d'une autre, créer des tensions parmi les enfants. Mais aussi, les modèles des parents à pouvoir gérer les conflits. Lorsque les enfants n'ont pas un modèle de leurs parents à travers lesquels ces parents-là gèrent leurs propres conflits, les enfants peuvent ne pas aussi avoir un modèle de pouvoir gérer les conflits qui peuvent se manifester parmi eux. Et donc, les parents sont invités à bien gérer leurs conflits pour que les enfants aient de la matière à gérer leurs propres conflits.
Comment les différences de personnalité entre les enfants peuvent-elles influencer leurs interactions en famille?
La différence de personnalité entre les enfants, c'est un élément important qui peut déjà créer un dysfonctionnement au niveau des interactions entre les enfants. Il y a par exemple le fait que parmi les enfants, il y en a ceux qui développent des personnalités différentes de celles des autres. Il y a des enfants extravertis, comme l'avons dit auparavant. Ces enfants-là sont capables d'initier des conversations et exprimer leurs émotions. Ils sont capables de pouvoir établir des liens, alors que les introvertis se réservent. Ils ont besoin d'un temps relativement long pour s'exprimer. Et cela, parfois, peut être perçu comme un désintéressement de la part de ces enfants introvertis. Et ça peut être un frein pour les interactions parmi les enfants. Il faut aussi dire que au niveau des styles de jeu, il y a des enfants créatifs, il y a des enfants compétitifs. Les enfants créatifs préfèrent des jeux imaginatifs, des jeux de collaboration qui favorisent la coopération, alors que les enfants compétitifs préfèrent les jeux de compétition qui parfois engendrent des rivalités entre les enfants. Et enfin, nous voyons le niveau des énergies, et ça c'est au niveau de la personnalité. Il y a des enfants actifs, il y a des enfants qui sont calmes. Au niveau des enfants qui sont calmes, ils veulent, plutôt des enfants qui sont actifs, ils veulent des activités physiques, ils ont besoin de stimulation constante, et cela peut frustrer les enfants qui sont calmes, qui préfèrent la tranquillité. Et cela peut entraîner des conflits lors des choix de jeux. Les enfants qui sont calmes aiment des jeux tranquilles, alors que les enfants actifs ils veulent des jeux d'activité physique, ils ont besoin de stimulation et autres. Et donc, à ce niveau-là, nous pouvons estimer que la différence de la personnalité entre les enfants a un impact sur leur interaction les uns avec les autres. Merci.
Nous avons parlé des facteurs psychologiques qui contribuent au conflit entre frères et sœurs, mais aussi les différences de personnalité qui influencent leur interaction. Quel rôle jouent les dynamiques familiales dans les tensions entre enfants?
Ah oui, là aussi, c'est très important de revenir sur ce rôle-là. Et donc, ces dynamiques familiales jouent un rôle crucial dans les tensions entre les enfants. Et donc, cette dynamique-là peut engendrer des tensions parmi les enfants, tout comme ça peut être un facteur qui puisse limiter les tensions parmi les enfants. Mais alors, en parlant de cette dynamique-là, nous voyons l'attention des parents vis-à-vis des enfants. Si un enfant se sent moins aimé, moins soutenu que ses frères et sœurs, ça peut causer la jalousie, ça peut causer la rivalité entre les enfants. Il faut aussi dire que certains événements familiaux peuvent exacerber la tension entre enfants à cause de l'incertitude et du stress que ces événements peuvent provoquer. C'est comme, par exemple, la séparation. La séparation, c'est un événement stressant qui peut, à un certain moment, être à l'origine des tensions qui peuvent caractériser les enfants. Nous avons dit aussi la communication familiale qui est ouverte peut favoriser les relations saines en famille, alors que des relations dysfonctionnelles mènent au malentendu. Merci, je crois qu'à ce niveau, nous pouvons nous arrêter par là, par rapport à ce que nous pouvons avoir comme élément à cette problématique.
Et comment les événements stressants comme un déménagement ou des problèmes scolaires chez les enfants peuvent-ils affecter les relations entre frères et sœurs?
Ah oui, merci, c'est une bonne préoccupation. Et donc, les déménagements, les problèmes scolaires comme tout autre problème ont de l'influence sur les relations entre frères et sœurs. Des relations entre les enfants d'une même famille. En effet, cela peut augmenter de l'anxiété chez les enfants et ça peut rendre certains enfants réactifs les uns envers les autres. C'est-à-dire, par suite de ces événements, certains enfants peuvent développer des réactions démesurées à l'endroit de leurs frères ou sœurs. Il faut aussi dire qu'au niveau scolaire, si l'un des enfants reçoit plus d'attention des parents que l'autre, cela peut être une source de tension entre enfants.
Régler les tensions entre les enfants à la maison, c'est le sujet au cœur de notre magazine de ce jour. Nous retrouvons à nouveau André Kitenge qui s'entretient avec le psychologue Erickson Mupanga.
Quels sont les signes indiquant que les tensions entre enfants nécessitent une intervention professionnelle?
Merci beaucoup pour cette question-là. Et la préoccupation, elle est légitime. Il y a certains signes qui peuvent déjà renseigner qu'il faut une intervention professionnelle pour réduire les tensions entre frères et sœurs. Et parmi ces signes, nous retenons celles qui suivent. Si vous constatez que les disputes entre frères et sœurs deviennent fréquentes, elles deviennent intenses, cela demande qu'on puisse s'y pencher sérieusement, en faisant même intervenir un professionnel. Lorsque les signes, ou plutôt les tensions, les disputes deviennent fréquentes, elles sont intenses, il faut inévitablement faire intervenir un professionnel. En deuxième lieu, c'est lorsque vous constatez que les comportements deviennent agressifs. Agressifs du point de vue verbal, agressifs du point de vue physique. Il faut inévitablement une intervention. En troisième lieu, c'est lorsque l'un ou l'autre des enfants qui sont en conflit présentent des signes de dépression, des signes d'anxiété, des signes de retrait social. Il est recommandé d'en parler nécessairement avec les professionnels à la matière. Et en fait, c'est lorsque les enfants ne savent pas résoudre leurs différends. Et aussi lorsque l'un de ces enfants se sent intimidé ou s'il craint pour sa sécurité à cause du comportement de l'autre. Il s'agit là d'un signe fort pour recourir à un professionnel.
Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à développer des compétences de résolution de conflits? C'est ce que nous venons de parler. Quelle est l'importance? Non, on parlait des signes qui indiquent les tensions entre enfants,
oui,
nécessitant une intervention professionnelle. Maintenant, comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à développer des compétences de résolution des conflits?
Ah oui, les parents ont un très grand rôle pour aider leurs enfants à acquérir la culture de résolution des conflits. Le rôle des parents est très indispensable. À ce niveau, nous demandons aux parents de servir encore une fois d'exemple aux yeux de leurs enfants à résolver leurs propres conflits respectueusement et d'une manière saine. En deuxième lieu, les parents doivent créer un environnement dans lequel les enfants se sentent en sécurité pour exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations. En troisième lieu, les parents doivent aider les enfants à comprendre les sentiments des autres. Cela favorise l'empathie et diminue les tensions au milieu des enfants. Et enfin, nous pouvons demander aux parents d'indiquer la manière par laquelle les conflits doivent être gérés dans la famille à leurs enfants. Les enfants doivent savoir la manière par laquelle les conflits sont gérés au niveau de la famille, parce que ça va donner à l'enfant de la matière à pouvoir se préserver des éventuelles tensions qu'ils peuvent développer parmi eux.
Parlons maintenant de l'attention. Quelle est l'importance de l'attention individuelle pour chaque enfant dans la réduction des conflits?
Ah oui, encore une fois, cette préoccupation, elle est vraiment capitale. L'attention individuelle pour chaque enfant qui doit bénéficier ces derniers de ses parents, c'est un élément très important. Cette attention individuelle dont bénéficie l'enfant de la part de son parent réduit la jalousie qui peut se développer au milieu des enfants. Ça réduit la compétition entre frères et sœurs parce que chacun se sent valorisé. Il y a aussi, en deuxième lieu, les parents doivent comprendre les besoins spécifiques de chaque enfant, ce qui aide à prévenir les conflits, parce que les besoins des enfants au niveau de la famille ne sont pas les mêmes. Et lorsque les parents abordent ces besoins individuellement, l'enfant, il a comme l'impression que il jouit d'une attention particulière de ses parents. Et cela peut prévenir des conflits. Il faut aussi permettre, cette attention individuelle de la part des parents vis-à-vis des enfants permet d'identifier et gérer rapidement tout comportement négatif chez un enfant avant qu'il ne devienne un conflit majeur. Parce que lorsque le parent a du temps avec un enfant, il peut très vite identifier un comportement qui, à la longue, peut se solder par un conflit majeur.
Nous allons terminer. Comment les parents peuvent-ils équilibrer équité et individualité pour éviter les sentiments de favoritisme?
Ah oui, merci beaucoup. Pour écarter les sentiments de favoritisme en famille, il est conseillé aux parents d'établir des règles qui s'applique à tous les enfants. Il ne doit pas y avoir une règle qui ne s'applique que à une catégorie d'enfants. Et donc, les règles doivent s'appliquer à tous les enfants membres de la famille. Mais, bien entendu, en tenant compte des besoins individuels des enfants.
Et leurs différences.
Et leurs différences, oui. En deuxième lieu, nous conseillons aux parents de reconnaître que chaque enfant a ses propres talents. Et c'est cela les différences que vous venez d'évoquer tantôt. Chaque enfant a ses propres talents. Chaque enfant a ses propres besoins. Et donc, à ce niveau-là, il faut aussi faire une part des choses dans la manière de gérer les talents et les besoins des enfants. À troisième lieu, les parents doivent consacrer du temps à chaque enfant individuellement. Cela montre que chaque enfant est important. L'enfant trouve que il a aussi de l'importance à partir du moment où le parent a un temps qu'il consacre à lui pour pouvoir échanger avec lui à propos de ce qu'il a comme préoccupation. Il faut dire également que, à ce niveau, les parents doivent faire attention en parlant des actions de chaque enfant pour éviter toute perception du favoritisme. Parce qu'il y en a de ce parent-là qui ont tendance à surestimer les actions des autres au détriment, plutôt les actions des uns, au détriment des actions des autres. Et donc, en parlant des actions des uns et des autres au niveau des enfants, les parents doivent être attentif. Et en fait, nous demandons aux parents d'encourager les enfants à soutenir et à apprécier les succès des autres enfants. Les parents doivent encourager leurs enfants à soutenir et à apprécier les succès des autres enfants en famille. C'est quand, par exemple, on vient de proclamer les résultats du premier semestre de premier trimestre. Un enfant en famille doit prendre le courage de pouvoir remercier son frère, sa sœur qui a satisfait et lui adresser les félicitations d'avoir réussi. C'est très important. Parce que des fois, les enfants perdent de vie, ils oublient de pouvoir remercier leurs frères et sœurs qui ont eu à pouvoir produire de bons résultats. C'est très important. Et donc, faut que les parents encouragent leurs enfants à soutenir, à apprécier le succès de leurs frères, de leurs sœurs. C'est une culture familiale où chacun se sent valorisé.
Tout à fait, c'est pour éviter aussi des conflits entre eux.
Ah, voilà.
Quelqu'un qui n'a pas réussi, on se moque de lui,
ah.
On le traite de n'importe qui, cela peut être une source de conflit.
Malheureusement, je crois pour ces enfants qui n'ont pas satisfait, ils ont besoin de l'encouragement de leur...
De réconfort,
oui, pour que prochainement, ils puissent se ressaisir et obtenir de bons résultats. C'est très important.
Erickson Mopanda, merci.
C'est moi qui vous remercie pour cette confiance que vous avez placée à nous, afin de pouvoir donner certains éléments à cette problématique que vous avez à traiter. Merci.
La fin de ce numéro du magazine Banokapi qui vous a permis de savoir comment régler les tensions entre les enfants à la maison. Les experts recommandent aux parents de prendre le temps de décrire le problème et de nommer les émotions ressenties par les enfants et de les aider à apprendre à régler leurs conflits eux-mêmes plutôt que de les résoudre à leur place. Retrouvez ce magazine sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net ou sur la page Facebook Banokapi. Ce magazine a été coproduit par Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, Grace Ouezolo, Rachel Kessembangu, André Kitenge. La réalisation a été assurée par Gisèle Kaj et Stanislas Diumi, sous la supervision de Jean-Marc Matoki Moufelele Dijanon. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa, Hippolyte Kapanga était à la prise de son, une présentation de Sarah Sumbela. C'était pour moi un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro passionnant de Banokapi. À très bientôt.